VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au micro Jacques Aristide
et Anne Albertson.
Anne, les titres en ce vendredi 16 mars 2018.
La nouvelle chef de l'ONU en RDC demande justice pour les victimes du Kasaï.
Le président camerounais veut que les efforts de l'armée soient poursuivis dans la région anglophone. Paul Biya l'a dit lors d'un rare conseil des ministres critiqué.
Il faut dire qu'il ne s'agissait presque pas d'un conseil ministériel parce qu'un conseil ministériel sous-entend un débat.
L'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, sort du silence pour déplorer un coup d'État.
Aux États-Unis, au moins 4 morts dans l'effondrement d'un pont tout neuf à Miami.
À venir également, vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports, ce sera dans 9 minutes.
La nouvelle représentante des Nations Unies en République démocratique du Congo veut que justice soit faite pour les victimes du Kasaï. Leila Zerougui a effectué son premier déplacement hors de Kinshasa dans cette région qui a retrouvé un calme précaire. Le compte-rendu de Morgane Guiriec.
Nous demandons justice pour ceux qui ont été victimes des atrocités, une justice vraie pour ceux qui ont perdu la vie, a déclaré Madame Zerougui à Chikapa, grande ville du Kasaï. Le conflit au Kasaï, selon l'Église, a fait plus de 3000 morts. Deux experts de l'ONU, la suédo-chilienne Zaida Catalan et l'américain Michael Sharp, ont été tués le 12 mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes. Kinshasa affirme que c'est l'œuvre des membres du mouvement Kamuina Nsapu, entrés en rébellion suite à la mort de leur chef traditionnel dans un assaut de l'armée en août 2016. 4 suspects ont comparu devant un tribunal militaire. Un procureur canadien nommé par les Nations Unies est arrivé en novembre pour appuyer l'enquête sur la mort des deux experts. La visite de Mme Zerougui intervient à 2 semaines du renouvellement du mandat de la MONUSCO avec 2 enjeux qui sont la sécurité et les élections générales prévues le 23 décembre prochain.
L'armée camerounaise devra poursuivre ses efforts pour un retour à la normale des activités économiques et sociales dans l'Ouest anglophone. C'est ce qu'a déclaré hier le président Paul Biya lors du premier conseil des ministres depuis 2015. L'armée camerounaise combat les séparatistes anglophones depuis plusieurs mois dans cette partie du pays. Le chef de l'État n'a pas encore indiqué s'il serait candidat à une 7e réélection à la présidence, mais Paul Biya est présenté par son camp comme le candidat idéal du parti au pouvoir, le RDPC. Nous y reviendrons tout à l'heure dans notre tranche magazine.
Au Zimbabwe, Robert Mugabe a mis fin hier au silence qu'il observait depuis sa démission en novembre sous la pression de l'armée et de son parti. L'ex-président déplore avoir été la victime d'un coup d'État qu'il a qualifié de honte à effacer. Le point avec Raissa Gironda.
Je dis que c'était un coup d'État, a déclaré Robert Mugabe, 94 ans, dans le premier entretien télévisé diffusé par la SABC, la chaîne publique sud-africaine. Nous devons effacer cette honte, a poursuivi l'ancien chef de l'État. Après 37 ans au pouvoir, il a été contraint de démissionner le 21 novembre dernier, lâché par l'armée, la ZANU-PF au pouvoir et la pression de la rue. Il a été remplacé par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président, qui l'avait limogé sur les conseils de son épouse Grace Mugabe. Des élections générales sont annoncées pour cette année, mais la date n'est pas encore connue. L'apparition de Mugabe sur une photo aux côtés de l'ex-général Ambrose Mutiniri avait les plus folles rumeurs sur son éventuel retour en politique. Monsieur Mutiniri a quitté la ZANU-PF et a créé un nouveau parti, le Front National Patriotique, et s'est déclaré candidat à la présidentielle. Le président Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, est lui aussi déjà en campagne.
Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures dans la région pétrolière du Delta, l'un des endroits les plus pollués de la planète, d'après l'ONG qui accuse Shell et ENI d'avoir dissimulé les causes de pollution. Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty affirme que les marées noires pourraient davantage être dues à la mauvaise maintenance des infrastructures et à la corrosion des oléoducs qu'à des actes de vandalisme.
La marine libyenne a saisi un pétrolier soupçonné de chargement illégal de carburant au large des côtes occidentales du pays. L'équipage grec du tanker a été arrêté. Le pétrolier Lamar Batan Pavillon Togolais se trouvait dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation de la Libye et dans une zone suspecte où se déroulent des opérations de contrebande de carburant libyen.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, une manifestation a dégénéré en affrontement avec la police hier soir dans un quartier de Madrid après le décès d'un vendeur à la sauvette sénégalais. Des protestataires accusent des policiers municipaux d'avoir pourchassé le Sénégalais d'environ 35 ans, Mam Bai Diaye, sur la Plaza de la Puerta del Sol, la plus célèbre de Madrid. Les services d'urgence ont indiqué que l'homme avait été trouvé inconscient dans une rue par une patrouille de police. Il était seul et est tombé évanoui, a affirmé un porte-parole. La maire de Madrid, Manuela Carmena, affirme qu'une enquête est en cours et que la mairie agira en conséquence.
En Israël, la Cour suprême a suspendu hier un plan gouvernemental prévoyant l'expulsion de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
La Cour, saisie par des organisations de défense des migrants, a gelé le plan gouvernemental d'expulsion des migrants africains illégaux. Nous prenons ici un ordre provisoire interdisant à l'État d'expulser des clandestins vers un pays tiers, a déclaré la Cour. Elle a donné au gouvernement israélien jusqu'au 26 mars pour fournir un argumentaire légal détaillé sur lequel repose son plan d'expulsion. Le gouvernement veut expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Il leur demande de quitter le territoire israélien d'ici début avril, sinon ils iront en prison indéfiniment. Ce plan concerne dans un premier temps les hommes célibataires qui n'ont pas soumis de demande d'asile ou dont la demande a été rejetée. Il a suscité des critiques du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et de certains survivants israéliens de la Shoah.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé une série de sanctions contre des individus et des entités russes. C'est en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques. Abdurrahman Dia.
Au total, 19 individus, dont un homme d'affaires proche du Kremlin, sont visés par ces sanctions. 5 entités sont également ciblées, parmi lesquelles les services de renseignement intérieur et les services secrets de l'armée russe. Moscou a immédiatement réagi, promettant des mesures de représailles. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a estimé que les sanctions américaines étaient liées à l'approche de l'élection présidentielle russe prévue dimanche, dont Vladimir Poutine est le grand favori. Le Congrès américain s'est prononcé pour des sanctions contre la Russie, mais le Trésor s'était jusqu'ici contenté de publier fin juin une liste de 200 responsables russes sans annoncer de mesures punitives. Plusieurs des personnes visées par les mesures annoncées hier ont été inculpées mi-février dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'interférence russe lors de la campagne aux États-Unis.
Nous restons aux États-Unis où au moins 4 personnes sont mortes hier dans l'effondrement spectaculaire d'un pont piétonnier flambant neuf en Floride. Le pont est venu s'écraser sur des véhicules circulant sur une autoroute à Miami. Les sauveteurs ont encore espoir de retrouver des survivants. Avant l'annonce du bilan, le président Trump a tweeté que de nombreux secouristes se sont précipités pour sauver des vies. Merci pour votre courage. Je prie ce soir pour tous ceux qui sont touchés, a-t-il ajouté. 8 voitures ont été prises au piège lors de l'effondrement du pont sur cette autoroute à 6 voies. Le pont posé samedi dernier n'était pas encore ouvert au public et devait donner sur les dortoirs où logent les étudiants de l'Université internationale de Floride.
Environ 20 000 civils ont fui hier la partie rebelle de la Ghouta orientale près de Damas en Syrie après avoir été soumis depuis près d'un mois à des bombardements et avoir subi pendant 5 ans un siège des forces gouvernementales syriennes. 7 ans, jour pour jour après le début du conflit syrien, le président Bachar al-Assad, soutenu par la Russie, semble sur le point de reprendre la totalité de ce fief rebelle situé aux portes de Damas. Dans cette guerre complexe aux multiples acteurs, un autre exode a eu lieu dans le nord-ouest du pays, avec la fuite de 30 000 civils de la ville d'Afrin, cible de bombardement de l'armée turque qui veut en déloger des combattants kurdes qu'Ankara qualifie de terroristes. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'économie rwandaise a connu une croissance de plus de 6% en 2017. Les performances du secteur agricole ont beaucoup contribué à ce résultat. Le secteur agricole occupe 70% de la population active et représente 31% du produit intérieur brut. Il faut aussi ajouter le secteur manufacturier, l'augmentation de la production de plusieurs minéraux, dont le coltan et la cassitérite. En 2018, la Banque centrale du Rwanda envisage une croissance de 6,5%, favorisée notamment par les bonnes conditions météorologiques. En Côte d'Ivoire, le préfet de Tabou demande aux chefs traditionnels de faciliter l'accès des terres aux investisseurs. Soulignant l'intérêt du développement du département de Tabou, il a estimé que de nombreux opérateurs économiques vont utiliser leur argent pour construire des usines et implanter des sociétés, donner du travail aux jeunes et faire reculer la pauvreté. Washington et Bruxelles vont discuter la semaine prochaine des taxes douanières que les États-Unis vont appliquer sur l'acier et l'aluminium. La date de rencontre entre le commissaire européen au commerce Cecilia Malmström et son homologue américain Wilbur Ross et le lieu ne sont pas encore connus. L'Union européenne exige d'être exemptée des taxes américaines, mais a aussi préparé des contre-mesures au cas où Donald Trump persisterait dans ses intentions. Les jeans, les motos de grosses cylindrées ou le beurre de cacahuète seront notamment visés en guise de rétorsion.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les 8 dernières places de la Ligue Europa connues.
Arsenal qui élimine le Milan AC 3-1, mais le tournant du match, c'est cette simulation de Welbeck qui a permis aux Gunners de revenir au score en première mi-temps. Arsenal distancé en championnat dans la course à la Ligue des Champions poursuit donc son parcours en C3 avec dans le viseur une victoire finale qui lui permettrait de retrouver la plus prestigieuse des Coupes d'Europe la saison prochaine. Battu par Salzbourg 2-1 lors du match aller, le Borussia Dortmund n'a pas su renverser la situation en Autriche. L'équipe de Peter Stöger n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0. L'Atlético Madrid s'est facilement qualifié en battant 5-1 le Lokomotiv à Moscou. Lyon éliminé à domicile après une défaite 3-2 contre le CSKA Moscou, alors que les Lyonnais s'étaient imposés 1-0 à l'aller en Russie. Très intéressant, lors du match aller en Italie, le Dynamo Kiev s'est totalement effondré à domicile. Élimination et défaite face à la Lazio de Rome, 2-0. Leipzig a aligné son équipe type pour confirmer sa victoire obtenue lors du 8e de finale aller contre le Zénith Saint-Pétersbourg. L'Olympique de Marseille a confirmé sa belle victoire à l'aller en s'imposant ce jeudi à San Mamés au stade de l'Athletic Bilbao, 2-1 pour la première fois depuis 2012. L'OM disputera un quart de finale de la Coupe d'Europe.
Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est tout à l'heure.
Qui pour affronter le Real Madrid, double tenant du titre qui rêve d'un 13e sacre, peut-être Barcelone et Lionel Messi qui a inscrit son 100e but cette semaine en éliminant Chelsea. A noter aussi les prétendants, le Bayern Munich, Manchester City de Pep Guardiola, la Juventus Turin, vice-championne d'Europe, sans oublier l'AS Rome, le FC Séville et Liverpool des Africains Salah et Mané.
La Coupe CAF prend ses droits dès ce soir.
Oui, deux matchs à jouer ce vendredi. L'ECS La Mancha, après sa victoire 3-0 à l'aller à Pointe-Noire, qui se déplace au Soudan sur la pelouse d'Alali Chandi. Le Petro Atlético d'Angola est en Afrique du Sud pour affronter à Pretoria le Super Sport United. On rappelle que les deux équipes avaient fait match nul 0-0 au match aller. Et puis Jacques, avec vous les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La star des Houston Rockets, James Harden, a conduit son équipe à la victoire cette nuit, 101-96, face à leurs rivaux Oni des Los Angeles Clippers. Les Raptors de Toronto, eux, sont revenus de l'arrière pour vaincre les Pacers de l'Indiana, 106-99. Ailleurs, Charlotte Hornets, 129, Atlanta Hawks, 117, Philadelphia Sixers, 118, New York Knicks, 110, Chicago Bulls, 111, Memphis Grizzlies 110, Nouvelle-Orléans Pelicans 93, San Antonio Spurs 98, Détroit Pistons 113, Denver Nuggets 120, Phoenix Suns 88, Utah Jazz 116, Cleveland Cavaliers 105, Portland Trail Blazers 113.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Cap sur le Cameroun où le président Paul Biya demande à l'armée du pays de poursuivre ses efforts pour un retour à la normale dans l'ouest anglophone. Les troupes camerounaises combattent les séparatistes anglophones dans cette région en proie depuis plus d'un an à une profonde crise sociopolitique qui s'est peu à peu muée en conflit de basse intensité. Cette requête du chef de l'État, qui est au pouvoir depuis 1982, a été formulée hier lors de son premier conseil des ministres depuis octobre 2015. La réunion s'est déroulée à huis clos, au Palais de l'Unité. Pour en savoir davantage sur ce rendez-vous gouvernemental longtemps attendu, Raissa Girondin s'est entretenue avec le journaliste camerounais Joseph Essama.
Déjà, il faut dire qu'il ne s'agissait presque pas d'un conseil ministériel parce que un conseil ministériel sous-entend un débat entre le président de la République et les membres du gouvernement. Mais dans ce cas, il s'agissait d'une communication spéciale du chef de l'État.
Donc vous avez dit que ça portait sur la communication spéciale du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il en est réellement ressorti?
Le chef de l'État a pris la parole. Il a, par exemple, prescrit la mise en œuvre harmonieuse du programme conclu avec le FMI, la finalisation des grands projets structurants qui sont les et les barrages d'électrification. Il a en outre prescrit l'accélération de la croissance et du plan spécial jeune. Il a aussi parlé de l'accélération du processus de décentralisation. Il faut noter que lors du dernier remaniement, il y a tout un ministère qui a été créé et qui est chargé de la décentralisation et du développement.
Mais c'est un président qui est plutôt absent. Comment le pays arrivait à fonctionner sans qu'il y ait de conseil de ministres durant 3 ans?
Il faut noter déjà qu'au Cameroun, on ne sait vraiment pas comment le gouvernement fonctionne parce que les ministres n'ont presque pas accès au président de la République. Certainement, les ministres ne répondent aux instructions du chef de l'État. Aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans les réseaux sociaux, la position des internautes, c'est que ce conseil des ministres était tout simplement l'occasion du président de la République pour découvrir les visages de ses ministres. Et l'occasion aussi pour les ministres de lui serrer la main, c'est tout. Parce que tout ce qui a été dit lors de son discours du 31, lors de son discours du 31 décembre, lors de son discours à la jeunesse. Donc, il n'y avait vraiment rien de nouveau là. C'est ça les réactions des internautes.
Et là, le fait qu'il rassemble ses troupes autour de sa communication spéciale, est-ce que vous pensez que c'est en préparation des élections présidentielles?
Oui, c'est un aspect qu'il faut aussi noter ici, qu'il y a au moins 4 à 5 élections qui doivent se tenir au Cameroun cette année. Les sénatoriales se tiennent dans quelques jours à la fin du mois. Donc, je crois vraiment qu'il y a peut-être un accent a aussi été mis sur ces élections qui doivent se tenir.
On écoutait le journaliste Joseph Essama. Il était en ligne de Yaoundé au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le climat, tant politique que social, est toujours très agité en Guinée. D'après l'opposition, les manifestations ont fait 93 morts depuis l'élection du président Alpha Condé en 2010, dont une douzaine depuis les scrutins locaux du 4 février. Officiellement remporté par le parti au pouvoir, le RPG. Hier, ce sont 1 millier de femmes qui ont occupé une autoroute urbaine de la capitale Conakry pour protester contre les violences policières meurtrières lors de manifestations et réclamer une révision des résultats des dernières élections en date. Pour en savoir davantage, Idriss Fall a interviewé la vice-présidente du comité national de l'UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée. Il s'agit de Maimouna Ba Diallo. Nous l'écoutons.
Les femmes ont manifesté parce qu'elles n'ont pas été entendues la dernière fois. On a fait un plaidoyer la dernière fois, on a fait une marche blanche pour demander aux autorités de ce pays et au président de la République d'arrêter de tuer nos enfants. On a pensé qu'il a compris. Mais malheureusement, hier, il y a eu une manifestation de l'opposition. Ils ont tué 3 jeunes. Donc, on ne comprend pas. On veut savoir si nos enfants sont des Guinéens, comme tout le monde, et si c'est le président de toute la Guinée. Pourquoi cette stigmatisation? La semaine passée, toute la ville a manifesté. Ils sont allés jusque devant chez lui, l'insulter, le traiter de tous les mots d'oiseaux. Aucune personne n'a été touchée. Et là, hier, c'est l'opposition qui manifeste. C'était l'occasion de rentrer dans les quartiers, violenter les gens, violenter les domiciles, et tuer les gens comme ils le veulent.
L'UFDG conteste les résultats des élections locales du 4 février. Les tribunaux se sont prononcés. Alors pourquoi envoyer les enfants dans les rues se faire tuer?
On n'a pas envoyé les enfants dans les rues. Ces élections ne sont pas passées dans les règles de l'art. Comment pouvez-vous comprendre qu'on fasse des élections, qu'on fasse les comptages au niveau des bureaux de vote? On prépare les PV. On envoie les PV jusque dans les bureaux de centralisation. On commence les comptes. Dès qu'ils se rendent compte que le pouvoir est en train de perdre, ils dissimulent des PV, soi-disant que ces PV ne sont pas retrouvés. Où on a vu ça? Dans quel pays du monde? Pourquoi nous on va accepter ça? Hein? Des PV qui sont rentrés jusque dans les bureaux de centralisation. Toutes les preuves existent. Il y a des cahiers de transmission qui le prouvent. Et comment ça peut se perdre? Si c'est perdu, c'est la faute à qui? Pourquoi c'est l'électeur qui va en souffrir? Si c'est perdu, il y a des copies un peu partout, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la CENI. Chaque délégué de parti a une copie. Pourquoi on ne retrouve pas ces copies-là pour rétablir les gens dans leurs droits? C'est plus facile pour eux de dire qu'on n'a pas retrouvé les PV, donc on annule ces voix-là. Vous allez l'accepter?
L'UFDG, cette formation n'a pas pu obtenir devant les tribunaux. Vous tenez coûte que coûte à l'obtenir par la rue, quoi.
C'est le seul moyen qu'on a. On a usé de tous les moyens légaux qui sont à notre disposition. C'est le seul moyen qui nous reste, parce qu'on n'est pas prêt à abandonner. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller aux élections, sinon, ce n'est pas la peine de faire les élections dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. Il s'est toujours fait élire par vol depuis 2015. Et là, c'est terminé. Parce que sinon, on est en train de tout bouger dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. C'est toute l'opposition guinéenne. Il ne s'agit pas que de l'UFDG seulement. Chacun a son problème là-dedans et tout le monde a porté plainte.
La Guinéenne Maimouna Ma Diallo, vice-présidente du comité national du parti d'opposition UFDG, jointe à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Nous vous le disions hier matin, les principaux syndicats à l'origine de la grève du secteur public au Tchad ont suspendu leur mouvement après la conclusion d'un accord avec le gouvernement. Depuis janvier, le climat social s'est tendu dans le pays. Le débrayage des fonctionnaires contre les mesures d'austérité a été accompagné d'appels à marcher ou de manifestations interdites par les autorités. L'Union des syndicats tchadiens indique que le travail doit reprendre immédiatement dès que l'instance aura constaté le paiement des salaires des agents. Ce matin, nous revenons en détail sur ce développement avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajinga.
C'est par ce champ de circonstances que l'Assemblée générale extraordinaire des travailleurs tchadiens a démarré ce jeudi à la Bourse du Travail. Rencontre au cours de laquelle les responsables de la plateforme syndicale revendicative ont expliqué à la base le bien fondé de cet accord dont l'application relève de la responsabilité directe du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Un accord qui permet la suspension de la grève générale, certes, mais selon le porte-parole de la plateforme syndicale, les fonctionnaires ne vont reprendre le travail que quand le dernier agent de l'État aurait gagné effectivement le salaire de février échu. Barka Michel.
Le point 1 de l'accord était le paiement de ce salaire. Donc, nous attendrons notre argent et nous avons décidé de la reprendre.
Quelques travailleurs sont pessimistes quant à l'application de cet accord.
J'ai l'impression que ça nous avantage, mais je ne suis pas sûr. Parce que je n'ai pas confiance à ce que nous appelons gouvernement, sincèrement. Parce que plusieurs accords ont été signés, mais l'application pose toujours problème.
Si jamais le gouvernement ne tient pas à ses propos, je suis sûr et certain que les gens vont repartir encore en grève.
Dans la lutte syndicale, on ne peut pas gagner à 100%. Vous demandez 100, mais si on vous donne 10, vous prenez les 10 et vous continuez la lutte.
Un juriste qui requiert l'anonymat soulève quelques points d'ombre de cet accord.
Il a été dit verbalement que l'abattement du salaire sera restitué, mais l'accord ne l'a nullement mentionné dans un point. S'agissant du moratoire de 3 mois qui sera observé par les banques aux agents de l'État qui sont sous crédit, il convient de relever que les banques sont dans une situation de droit privé et par conséquent dans une situation contractuelle avec leurs clients. Et donc, si moratoire il y a, le gouvernement doit discuter avec les banques au préalable et obtenir d'elles une réponse positive avant que cette partie ne soit intégrée dans l'accord.
Pour Dr Doyen Dibam, juriste et consultant international, cet accord est beaucoup plus politique que social.
Et cet accord est scandaleux du point de vue de la revendication des droits des fonctionnaires tchadiens. Derrière cet accord, il se cache bien évidemment des velléités autres que la satisfaction définitive. positive sur le plan social des fonctionnaires de l'État.
Pour Guilayou Jérémy, président du syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur SINEX, ce document prend en compte toutes les revendications de son organisation. En revanche, le SINEX, section de l'université de N'Djamena, n'entend pas reprendre le travail tant que les arriérés de salaire des anciens contractuels, les frais du jury et d'heures supplémentaires ne sont pas payés. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des usagers des drogues injectables, une population vulnérable au VIH-SIDA.
Selon l'OMS, 16 millions de personnes s'injectent des drogues et 3 millions d'entre elles vivent avec le VIH dans le monde. En partageant les mêmes seringues, elles se transmettent aussi la maladie.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin en RDC. Il nous expliquera les liens qu'il y a entre la drogue et le SIDA.
Nous écouterons le témoignage du docteur Idriss Abba, coordonnateur d'un centre de prise en charge des usagers de drogue au Sénégal. Nous écouterons aussi le docteur Boussiki Bernard du programme de lutte contre le sida en RDC.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique à Washington DC. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab. Et notre sujet de cette semaine, comment différencier bonne et mauvaise critique? Comment différencier bonne et mauvaise critique? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001-703-350-3731 ou contactez-moi alors sur ma page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aussi au 001-202-205-2633 ou au 001-202-619-7925. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et voilà de la bonne musique pour terminer. Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également en notre compagnie pour la présentation du journal. C'était John Ellison à la technique. Un petit clin d'œil à nos radio partenaires en Afrique. Et ce matin, je salue nos amis et confrères de Radio Balafon 90.2 FM à Douala au Cameroun. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous une fois encore ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi et un très bon week-end sur VOA Afrique. Take care.